Radio Prague, les informations.
Bonjour, des boîtes mail du ministère des Affaires étrangères ont été piratées, probablement par des hackers étrangers. La Slovaquie a rejoint le projet tchéco-polonais de canal Danube-Oder-Elbe. Trois nouveaux foyers de contamination à la grippe aviaire ont été détectés en Tchéquie. Des pirates informatiques dont l'identité n'est pas connue auraient réussi à s'introduire dans les boîtes mail du ministre des Affaires étrangères, Lubomír Zaorálek, de son adjoint, ainsi que d'autres employés du ministère. Ils seraient parvenus à en extraire des données pendant plusieurs mois. Rapporté par le site Neovlivni CZ, l'information a été confirmée par le ministre Lubomír Zaorálek. Selon lui, des dizaines de boîtes mail ont été piratées, probablement par des hackers étrangers. Selon son porte-parole, aucune information secrète n'avait fuité. L'affaire, jugée sérieuse par le Premier ministre Bohuslav Sobotka, sera examinée par le gouvernement. Les services de renseignement militaire tchèque auraient permis de déjouer deux projets d'attentats qui visaient des cibles hors de la République tchèque au cours du mois dernier. Dans un entretien pour le site Info CZ, le ministre de la Défense Martin Stropnitsky, qui fournit cette information, ne précise pas le pays dont il est question, indiquant simplement qu'il s'agit d'un État situé à l'est de la Slovaquie. Les services de renseignement militaire ont probablement permis d'éviter un nouveau massacre, a commenté le ministre Martin Stropnitsky souligne également qu'il ne dispose d'aucune information qui indiquerait que la République tchèque serait menacée par une quelconque menace terroriste. La Slovaquie a rejoint la République tchèque et la Pologne au sein d'un groupe de travail chargé de la réalisation du projet de canal reliant le Danube, l'Oder et l'Elbe. À l'occasion de la rencontre des ministres des Transports des trois pays respectifs, tenue ce mardi à Varsovie, la République tchèque, la Pologne et la Slovaquie ont signé un mémorandum. Ce dernier compte sur le financement de ce projet ambitieux mais contesté par de nombreux écologistes grâce aux fonds européens. L'inspection vétérinaire a confirmé l'existence de trois nouveaux foyers de grippe aviaire en République tchèque. Alors que 400 volailles ont été abattues ce mardi dans la commune de Bílenice, située près de Chomutov, dans le nord-ouest du pays, deux autres foyers, plus précisément le 14e et le 15e, viennent d'être détectés en Bohême du Sud, dans les régions de Prachatice et de České Budějovice. Après 10 ans d'absence, le virus H5 avait fait sa réapparition en République tchèque en début d'année. Près de 20 000 volailles ont déjà été abattues depuis. La grippe aviaire sévit actuellement dans une vingtaine de pays européens, dont la Slovaquie voisine. Depuis début janvier, près de 44 sociétés étrangères de jeux de hasard considérées comme illégales se sont retirées du marché tchèque. Ces dernières représentent près de 90% du volume d'activité de ce secteur non autorisé sur Internet. À la fin de 2016, le ministère des Finances a identifié 55 sites Internet illégaux de jeux de hasard ciblant des clients tchèques, appelés à mettre un terme à leurs activités suite à l'entrée en vigueur d'une nouvelle législation. La majorité de ces sites ne sont actuellement plus accessibles aux joueurs tchèques. Côté météo, mercredi, jour de la fête des Hinek, le ciel restera très nuageux, voire couvert sur une majeure partie du territoire tchèque. Les températures varieront entre moins 1 et 1 degré. Jusqu'à 15 cm de neige devrait tomber jusqu'à mercredi midi, notamment dans le centre et dans l'est du pays. La neige et le verglas compliquent la circulation routière un peu partout dans le pays. Les conducteurs sont appelés à la prudence. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková. La suite du programme avec Pierre Maignan.
Faits et événements en République tchèque. Bonjour à tous les amis et bienvenue à l'écoute du programme quotidien de Radio Prague, un programme consacré une nouvelle fois à l'actualité tchèque. Commençons avant tout par remercier Magdalena Hrozinková pour son bulletin d'information. Au sommaire, ce mardi, on parle du projet de loi qui doit permettre aux services de renseignement militaire de protéger la Tchéquie face aux attaques cybernétiques. Un texte très critiqué car jugé intrusif et potentiellement dangereux par certains. Il sera ensuite question avec Guillaume Narguet du projet de Placido Domingo à Prague, où le ténor et chef d'orchestre prépare deux concerts pour l'automne prochain en hommage à Wolfgang Amadeus Mozart. Enfin, mardi oblige, place en deuxième partie de ce programme à la rubrique Panorama. Lucile Meunier nous fera revivre le festival Ballfolk qui s'est tenu ce week-end à Prague. Bonne écoute à tous et à toutes. La Chambre des députés étudie en troisième lecture un amendement à la loi sur le renseignement militaire qui doit organiser la défense tchèque pour parer à d'éventuelles attaques cybernétiques. Mais le texte déplaît fortement aux professionnels de l'Internet tchèque qui considèrent que le dispositif prévu, intrusif selon certains, renforce la menace plus qu'il ne la prévient. Le réseau Internet est devenu un nouveau champ de bataille, aussi bien dans les conflits plus ou moins ouverts entre États que dans le cadre de la guerre économique. À l'instar de nombreux autres pays, la République tchèque se dote donc des moyens de faire face à cette nouvelle menace, et c'est précisément l'enjeu de ce texte législatif actuellement à l'étude des députés. Elle doit doter le service de renseignement militaire qui gère le Centre national des forces cybernétiques, organe nouvellement créé, des outils nécessaires pour mener à bien cette mission. La législation en discussion fait l'objet de vives critiques de la part de l'initiative Sécurité digitale et vie privée, soutenue par différentes organisations dont le Parti Pirate, qui parle d'une loi orwellienne. Avec ce texte, le renseignement militaire pourrait, selon les détracteurs de ce projet, collecter des données permettant de connaître les internautes, les moments où ils sont sur leur ordinateur, leur réseau de sociabilité ou encore leurs habitudes de consommation en ligne. Pour Jan Baron, le chef du renseignement militaire qui présentait l'amendement lundi en conférence de presse, il faut toutefois raison garder, ces services n'auront pas la possibilité d'avoir accès au contenu des communications des internautes.
Nous n'avons pas besoin de procéder à une large collecte des informations sur le contenu des messages. Nous avons besoin de faire une analyse symptomatique du trafic sur ces réseaux afin de déterminer qu'est-ce qu'un trafic normal et ainsi d'être en mesure d'évaluer quand un trafic est modifié en lien éventuel avec une anomalie, une menace, la préparation d'une attaque ou bien une attaque en cours.
Jan Baron assure d'ailleurs que plusieurs garde-fous, notamment des contrôles au niveau gouvernemental et parlementaire, sont prévus pour empêcher une utilisation abusive des informations collectées. Il précise que pour accéder à leur contenu, il faudra obtenir la permission des autorités judiciaires. Le système doit fonctionner sur la base de contrats avec les fournisseurs d'accès à Internet, qui seront chargés d'installer eux-mêmes le dispositif de surveillance. Jan Baron détaille.
Nous dirons aux fournisseurs d'accès de quelles données nous avons besoin sur leur système pour la sécurité du pays. La gestion de ce dispositif sous la forme d'une boîte sera du seul ressort des fournisseurs d'accès qui le testeront sur leur réseau, le configureront selon nos besoins et que nous pourrons ainsi y commencer à utiliser. Cet équipement sera totalement passif.
Les fournisseurs d'accès ont cependant de nombreuses réserves. Ils craignent que le système n'entraîne des perturbations que les clients et les autorités de régulation pourraient ensuite leur reprocher. Dans une lettre ouverte au Premier ministre Bohuslav Sobotka, des professionnels de l'Internet tchèque font également part de leurs inquiétudes et demandent le retrait pur et simple de l'amendement. L'implantation du système de surveillance du renseignement militaire, loin de pouvoir déjouer les plans d'éventuels pirates informatiques, pourrait en fait faciliter leur démarche. C'est ce qu'explique un des signataires, Andrzej Filip, le directeur exécutif de l'association CZ.NITS.
Le fait que le renseignement militaire va installer des outils au niveau des nœuds les plus importants de l'Internet tchèque va conduire à l'apparition d'une cible pour une attaque. Cela signifie que des pirates informatiques n'auront pas attaqué une société donnée, mais qu'il sera beaucoup plus facile pour eux d'attaquer directement le renseignement militaire, ainsi prendre le contrôle de l'Internet tchèque.
A tím vlastně krásně převzít kontrolu nad tím českým internetem.
Visiblement sensible à cet argument, le Premier ministre devait s'entretenir ce mardi avec des parlementaires sur le sujet. L'attaque informatique contre plusieurs dizaines de ces boîtes mail, dont le ministère des Affaires étrangères dit être la victime, pourrait également influencer leur jugement. On passe à tout autre chose. Les amateurs de grande musique et de musique d'opéra tout particulièrement peuvent d'ores et déjà faire une petite croix dans leur calepin aux dates des 27 et 29 octobre prochains. À l'occasion du 230e anniversaire de la première mondiale à Prague de Don Giovanni de Mozart, Placido Domingo dirigera deux concerts présentant la musique de l'opéra au Théâtre des États. Dimanche, le célèbre ténor et chef d'orchestre espagnol était dans la capitale tchèque pour présenter son projet, un projet dont vous parle le mélomane Guillaume Narguet.
Mes Pragois me comprennent, cette phrase restée gravée dans les mémoires et dont les Tchèques ne sont pas peu fiers, aurait été prononcée par Wolfgang Amadeus Mozart après la première de son Don Giovanni au Théâtre des États à Prague en 1787. 230 ans plus tard, Placido Domingo n'a pas la prétention du génial compositeur autrichien, cela ne l'empêche cependant pas d'avoir mis sur pied à travers ces deux concerts un projet unique en son genre.
Je serais très honoré de pouvoir diriger l'Orchestre du Théâtre National et ses deux représentations exceptionnelles. Nous allons travailler avec une copie des partitions de l'époque et dans de magnifiques costumes. Je suis aussi très heureux de pouvoir profiter de l'occasion pour inviter les lauréats du concours Operalia, concours international de chant lyrique créé par Placido Domingo, qui interpréteront les principaux rôles.
C'est lors d'un passage à Prague et d'une visite du Théâtre des États, il y a quelques années de cela, que Placido Domingo a eu l'idée de diriger de lui-même un jour un des plus célèbres opéras de Mozart dans le lieu même de la première historique. Directrice de l'Opéra du Théâtre National et de l'Opéra d'État, Sylvia Ronsova est bien entendu enchantée par cette perspective.
Les concerts seront donnés dans les décors et la célèbre production du scénographe Joseph Svoboda ainsi que dans les costumes de Théodore Pištěk. Je pense que tout cela sera extraordinairement intéressant pour le public. Tout le monde est ravi de participer à ce projet, qu'il s'agisse de l'orchestre du Théâtre National ou des solistes. D'ailleurs, c'est aussi pour cela que Placido Domingo est venu à Prague. Deux concours sont actuellement en cours pour les rôles de Masetto et de Donna Elvira.
En raison du caractère très exigeant de l'ensemble du projet, seuls deux concerts seront présentés au public. Cela peut sembler peu, tant la demande risque d'être importante, mais la directrice de l'Opéra du Théâtre National se veut réaliste.
L'équipe est vraiment composée sur la base d'un casting international et Placido Domingo a un emploi du temps très chargé. Nous sommes déjà très heureux qu'il ait pu se libérer pour ces deux dates et qu'un tel projet puisse être présenté pour la première fois au Théâtre des États.
Et si Placido Domingo apprécie bien entendu la musique du Don Giovanni de Mozart, en revanche, la relation qu'il entretient avec le héros de la pièce est plus complexe.
Je n'aime pas du tout le caractère de Don Juan. J'ai certes chanté son rôle de nombreuses fois dans ma carrière, mais je ne le veux plus aujourd'hui. Sa personnalité me pose problème. Je ne comprends pas son comportement avec les femmes, et encore moins pourquoi celles-ci sont folles de lui. C'est donc un opéra que je préfère diriger plutôt que de chanter.
Si les Pragois auraient sans nul doute apprécié entendre chanter le ténor espagnol, ils se satisferont également à n'en pas douter de ses talents de chef d'orchestre, un dirigeant qui ne rêve que d'une chose, quitter la scène du Théâtre des États ovationné comme l'avait été Mozart à son époque.
Le
On passe à la rubrique Panorama. Le festival Ballfolk a fêté le week-end dernier à Prague sa 5e édition au théâtre Ponetz. Comme cela est désormais devenu une tradition, danseuses traditionnelles et des concerts de musique folk ont figuré au programme de ces deux journées. La musique folk, un genre musical encore minoritaire en Tchéquie, mais qui tend néanmoins à s'y installer comme ailleurs en Europe, comme vous le fait découvrir Lucille Meunier.
Panorama.
Panorama.
Lorsqu'on plonge dans l'ambiance du Ballfolk pour la première fois, on se sent d'abord un peu perdu. Davantage qu'un simple spectacle, Ballfolk est une communauté réunie pour jouer de la musique inspirée des traditions bretonnes, celtiques et plus généralement européennes. Les spectateurs dansent en duo ou en groupe avec spontanéité et émotion. Les artistes, aux influences très diverses, passent des mélodies calmes aux rythmes fougueux, colorés parfois de sonorités jazz. Tous nos préjugés sont alors chamboulés. Cet intérêt pour la culture folk n'est pas nouveau. C'est en effet dans les années 70 que les bals folk sont apparus en France, avec alors pour ambition de redonner vie aux musiques et aux danses traditionnelles dans les milieux ruraux comme urbains. Ce mouvement s'est ensuite propagé en Europe, mais n'a pas connu le même essor en Tchécoslovaquie, ni par la suite en République tchèque. L'histoire de la Tchéquie n'explique pourtant pas cette forme de retard. La Saint-Patrick, par exemple, pour ne citer qu'elle, est ainsi régulièrement fêtée à Prague. Pour parler de ce mouvement, nous avons donc rencontré Mikuláš Brajan, membre du groupe Bafnu et initiateur du Ballfolk, ainsi qu'Eva Driová, productrice. Ils nous ont expliqué plus en détail pourquoi ils ont voulu créer ce festival.
Et je suis venu à Bretagne pour voir des danses en chaîne et en ronde qui fonctionnent toujours dans le milieu social. Comme plus ou moins au 16e siècle. Donc j'étais très, très porté par cette énergie-là. J'ai pensé à faire quelque chose comme ça ici parce qu'à la République tchèque, il y a, sauf quelques exceptions, il y a que des groupes folkloriques vraiment dans le sens pour faire des choses, pour les monter sur scène. Pour faire des spectacles et on a j'avais vraiment envie de faire de retrouver le sens de la danse comme quelque chose qui se passe avec des autres gens.
On essaye d'installer cet esprit des Ballfolk Festival ici en République Tchèque parce que on peut bien dire que des années 70 le Ballfolk a commencé à partir dans toute l'Europe. Mais il s'est arrêté près de nos frontières, évidemment, logiquement.
Parce que c'était trop social. C'était des questions de la régime qui n'était pas intéressé de laisser des gens s'amuser ensemble. Parce que c'était quelque chose créé par des communistes pour passer des idées qu'ils aimaient. Et donc c'était toujours fait comme un spectacle.
Ces dernières années, le Ballfolk a gagné en notoriété selon Gérard Gordon, danseur et musicien français qui a été un des premiers artistes à se produire à Prague.
Il y a 5-6 ans, j'ai rencontré toute l'équipe. Là. Au début, ils étaient venus beaucoup en France, on avait sympathisé, c'était des bons danseurs, des bons musiciens. Ils avaient envie de faire quelque chose ici, ils n'avaient pas de moyens, pas d'argent. Et j'ai dit, je l'aimais bien ce garçon. J'ai dit, Mikuláš, si tu veux, lance un truc, fais quelque chose, essaye qu'on ait au moins les frais de déplacement, on vient, on verra bien. Et là... Moi, je suis venu jouer à Prague il y a 4-5 ans. Il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de monde, mais ça allait. Et maintenant, là, ils ont refusé plein d'entrées par rapport à la capacité du théâtre.
Un Un des points communs à tous les artistes amateurs de bal folk est leur attachement à une communauté qui transcende les frontières. Au bal folk, il n'y a pas que des Tchèques, il y a aussi des Italiens, des Français, des Autrichiens, et tous ou presque se connaissent. Surtout, la moyenne d'âge tourne autour de 30 ans. La particularité à Prague est qu'ils peuvent aussi apprendre des danses tchèques ou les autres facettes de certaines danses comme la mazurka, une danse en trois temps originaire de Pologne qui a toutefois une variante tchèque. Lors de cette 5e édition du festival, Marie Fritschova a ainsi donné un cours de Landler, une danse qui serait à l'origine de la valse. Dans la vie de tous les jours, Marie enseigne la danse folklorique à l'Académie tchèque des arts musicaux à Prague, une discipline qui, selon elle, gagne en popularité.
V Čechách se teď hodně lidé vrací.
D'après moi, les Tchèques tendent à revenir vers les danses traditionnelles. Au départ, c'était beaucoup plus établi en Moravie, mais maintenant, ça commence même à s'installer dans le centre de la Tchéquie. Il y a un public grandissant. J'ai également des expériences aux Pays-Bas, où la tradition est très forte. Ce regain d'intérêt pour les traditions et pour nos racines peut sembler contradictoire dans une société qui fait la course à la modernité. Et ce, d'autant plus, comme l'explique Gérard Gordon, que la danse folk n'est pas toujours accueillie chaleureusement.
Mais c'est vrai qu'il y a de la technique. Il y a des choses assez techniques en danse traditionnelle. Ça a toujours été un peu considéré comme des danses de paysans. En France, on dansait ça avec des sabots dans la boue. Il y a quand même ce vieux truc qui traîne, quoi. Après ça, il y a eu le bal musette en France. Ça venait quelque chose, c'était pareil.
Tout n'est pas écrit en noir et blanc pour autant. Puisque la musique folk se modernise, elle ne cesse de se renouveler et d'innover, donc d'atteindre un public jeune. Gérard Gordon donne un exemple de musique et de danse actuelle.
Par exemple, les musiciens de Slavia m'ont cité comme étant le créateur d'une danse qui s'appelle la Scottish Impair. C'est un truc que j'ai créé il y a 10 ans et que je joue, mais que maintenant d'autres groupes s'inspirent de ça. Donc c'est pas du tout traditionnel, quoi. C'est juste actuel. C'est de la musique actuelle. Peut-être qu'un jour, d'autres musiciens vont inventer des nouvelles danses traditionnelles. Je pense que la vie, c'est comme ça. Voilà pourquoi on est habillé avec des petits pois et que dans 10 ans on dira ah, bah ça c'était moche, on porte autre chose et on y reviendra. Enfin c'est une évolution et c'est pareil pour la danse.
C'est d'ailleurs le parti pris du groupe Slabia aux couleurs jazz et actuelles qui n'utilise pas spécialement d'instruments traditionnels, mis à part l'accordéon diatonique de Raphaël De Coster, présent lui aussi à Prague.
On joue pour le bal folk. Ça veut dire que toutes les musiques qu'on compose, elles sont calées sur des structures et des rythmes qui sont adaptés à la danse traditionnelle. Donc ça peut être des valses, des mazurkas, des scottish, des andro. Il y a un petit peu de danse bretonne, andro, enterdro. Après, il y a des danses collectives, des rondos, des cercles circassiens, des chapeloises. Ça qui date du revival de folk dans les années 70. Mais nous, en fait, on prend ce parti-là de juste utiliser les structures de la danse, mais après de prendre énormément de liberté dans la musique et d'essayer de pas trop se limiter dans les arrangements.
La musique traditionnelle va même jusqu'à s'inspirer des musiques électroniques en vogue aujourd'hui. C'est ainsi que Bafnou peut monter sur scène aussi bien avec un instrument traditionnel, comme la vielle à roue, qu'avec un ordinateur. Shimon Wojtik, membre du groupe, rentre dans les détails.
Nos racines, nos influences sont tout d'abord la musique et la danse folk, car la structure de la musique doit permettre de danser. Nous sommes également influencés par les musiques actuelles, comme la musique électronique. Nous mélangeons ces diverses influences pour essayer d'obtenir une musique qui nous plaise et sur laquelle les gens peuvent danser. Pour faire court, nous faisons de la musique folk électronique.
Term or short description, it's an electronic dance folk music. La culture folk n'a donc pas dit son dernier mot. Elle se nourrit encore des traditions tout en piochant un peu dans tous les genres pour créer, innover et toucher le public de notre époque. En Tchéquie, certes, le mouvement est toujours moins important qu'en France ou aux Pays-Bas, mais il semble donc s'installer autour, entre autres, du rendez-vous annuel à Prague du bal folk.
Voilà, c'est avec ce panorama à propos du festival Bal Folk que s'achève notre émission du jour. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité et je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou bien sur Facebook. Nous espérons au passage que notre nouveau site internet vous plaît. À très bientôt les amis, ahoy.